Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie. Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri, comme tous les lundis à 17h.
Et oui, une émission de bonne humeur, on est toujours ravis de se retrouver, Richard et moi-même, et on est toujours ravis de retrouver les auditeurs de Radio Courtoisie pour un nouveau numéro.
Oui, aujourd'hui, un numéro d'été. Alors, on va parler de cinéma. Et un peu de gastronomie aussi.
Et des recommandations peut-être de lecture, parce que
on a
le plaisir aussi d'avoir dans notre auditorat, parmi les gens qui lisent le plus en France, qui est un pays où on lit de moins en moins.
Absolument.
Et en plus d'avoir des auditeurs qui lisent, on a un éditeur aussi derrière le micro, ce qui ne gâche rien.
Présent, c'est moi. Bon, alors Pierre-Henri.
Cinéma, mais alors on cinéma, avait... toujours en lien avec des questions politiques ou géopolitiques, plus ou moins d'actualité. On en avait déjà fait
voilà,
une.
On avait parlé.
Il y a quelques semaines.
Oui, mais faute de temps, on a écourté. On avait parlé de ce fameux film sur l'opération Entebbe. Il s'agissait, je rappelle un peu aux auditeurs, d'une histoire vraie, d'un détournement d'avion Air France qui allait de Paris à Tel Aviv, qui a été détourné par des terroristes palestiniens
et aussi
de l'extrême gauche allemande. Ouais. Comme quoi, l'islamo-gauchisme, c'est pas nouveau. C'était déjà... on est dans les années 70, hein, on est en 1976, oui.
Ouais.
Et donc l'extrême gauche allemande alliée aux Palestiniens avait détourné cet avion, il l'a fait atterrir en Ouganda. Et je vais vite, juste pour rappel, et les Israéliens n'ayant pas trouvé de solution pour libérer les otages qui avaient été descendus de l'avion et stockés à l'aéroport, parce que les Ougandais étaient complices de cette affaire, ont décidé de faire une opération incroyablement osée, d'envoyer des soldats, des commandos israéliens dans un avion qui n'est pas censé être un avion militaire, qui atterrit sur dans cet aéroport et qui libère tous ses otages. C'était le frère de
Benjamin Netanyahou.
Le frère de Benjamin Netanyahou
qui a perdu la vie, s'il
qui
fait
dirigeait
partie
cette
des
opération
deux,
ouais. Et qui a perdu la vie. Juste, c'est le seul mort d'ailleurs.
Ouais, je crois.
En
côté
quittant,
israélien, c'est
côté
le
israélien,
seul.
En quittant, quittant l'aéroport. Et donc c'était, il y a eu un film de ça, on en a parlé, extraordinaire que l'on conseille une fois de plus aux auditeurs. Qui s'appelle Opération Entebbe, avec Charles Bronson notamment.
Ouais, tout à fait.
Mais alors, on voulait parler d'une autre... Parce qu'en fait, il y a deux pays dans le monde, et c'est pas par chauvinisme que je dis ça, il y a deux pays dans le monde qui sont réputés avoir les commandos d'intervention et d'extraction et d'exfiltration d'otages les meilleurs au monde, qui forment les autres d'ailleurs. Mmh. C'est Israël et la France.
Et la Grande-Bretagne aussi quand même,
c'est
un peu
vrai,
avec les SAS.
Version militaire.
Plus militaire.
Le GIGN en France est quand même une des meilleures équipes au monde qui forme beaucoup de...
Et depuis les années 70 d'ailleurs, à telle enseigne que c'est l'Arabie Saoudite qui nous avait appelé pour l'immense prise d'otages à la Mecque.
Baril.
Avec le capitaine Baril, avant qu'il ne travaille pour Mitterrand.
Et puis on a la Légion étrangère, c'est vrai qu'on peut comparer au SAS, vous avez raison. En tout cas, nous sommes avec Israël le seul pays qui a osé... faire une intervention pour sortir des otages dans des pays d'Afrique où ils étaient non pas seulement pris en otage par un petit groupe, mais comme en Ouganda, là, ils étaient carrément dans l'aéroport avec la complicité des dirigeants locaux. La France, à Kolwezi, il y a eu une sorte de putsch.
Ouais.
Et nos ressortissants se sont retrouvés avec quelques Belges pris en otage.
3000 Européens sur place, hein, dans la ville de Kolwezi.
C'était pas une petite prise d'otages. Et c'était pas des otages, ils étaient prisonniers, en fait. Des prisonniers qui étaient menacés de mort. Et donc, et là, la France envoie, on va rentrer dans les détails un peu, mais la France décide, on est sous Giscard d'Estaing, on est en 1978.
18, tout à fait.
Là, on décide, en urgence, d'envoyer les bérets verts. La Légion étrangère.
Le deuxième REP.
C'était le deuxième REP.
Régiment étranger de parachutistes.
Basé à Bastia.
Ouais.
Et on décide de l'envoyer comme ça. C'est une décision prise à la dernière minute par Giscard d'Estaing. Il fallait que Giscard d'Estaing donne son feu vert et il l'a donné.
Complètement à l'arrache, en fait.
Oui, parce qu'on essayait de négocier et tout, et puis on se rend compte que... Alors, je rappelle juste, Pierre-Henri, si vous pouvez rappeler les faits. Alors, on est dans une mine à Kolwezi.
Alors, une mine à Kolwezi, mais au départ, il faut rappeler que Kolwezi, c'est en gros la ville principale du Katanga. Le Katanga qui avait fait sécession au début des années 60 avec un leader qui s'appelait Moïse Tshombe. Moïse Tshombe s'est fait dégager. Vous savez qu'il y a eu tout un tas d'interventions de pays étrangers, en particulier la Belgique, qui voulait y préserver ses intérêts économiques avec l'Union minière, qui était en gros leur relais économique local. Les troupes sécessionnistes du Katanga, elles sont parties dans le pays d'à côté, qui est l'Angola. Parce que ethnie similaire, et ils ont juste traversé la frontière et elles s'y sont installées. Et il se trouve que en Angola, a pris le pouvoir un régime pro-soviétique, qui à un moment s'est mis à aider...
Proche de Castro, proche de Cuba d'ailleurs.
Alors, de Cuba, parce qu'il y avait plein d'instructeurs cubains en Angola, et proche des soviétiques qui envoyaient des conseillers est-allemands.
Absolument.
Voilà. Et donc, le régime pro-soviétique en Angola se dit, tiens, on va aider ces Katangais-là, ces Congolais du Katanga, qui sont chez nous, à essayer de refaire une invasion du Katanga pour essayer, en fait, de grignoter le Congo. Bon, très bien. Au Congo, il se trouve que c'était devenu le Zaïre déjà, et c'était Mobutu. Mmh. Le maréchal Mobutu qui avait pris le pouvoir, il se trouve que Mobutu, lui, il était très pro-occidental.
Absolument, pro-français surtout.
Et même, il avait été un temps sur les fiches de paye de la CIA. Et donc, il y a une première tentative en 77 des Katangais de passer au Katanga. Et de prendre Kolwezi, c'est rapidement réglé, non pas par les Français à l'époque, parce que en 77 Giscard n'était pas chaud pour intervenir, mais il demande au patron du SDEC, donc de nos services secrets, Alexandre de Maranche, qui était le moins qu'on puisse dire, pas un demi-anticommuniste,
hein, oui, absolument,
200% anti-coco. Il demande
très connu sur ce micro, Alexandre de Maranche.
Oui, bien sûr, et qui était un quasi-voisin de Jean-Marie Le Pen à Montretout, si je ne m'abuse. Je crois qu'il habitait presque, en tout cas, à proximité.
Après, il a fini à Monaco, à la retraite.
Agréable aussi. Et Maranche, en fait, qui connaissait tout un tas de souverains, parce que lui, c'était un vrai noble et un vrai guerrier, demande à Hassan II, roi du Maroc, de faire intervenir des troupes marocaines pour que ça soit un règlement interafricain. Les Marocains dégagent les Katangais, mais qui faisaient en gros une espèce de répétition. Et ils reviennent en 78. Et donc des troupes qui sont ultra-violentes, hyper déterminées, qui prennent d'assaut la ville de Kolwezi, et dans laquelle il y a 3000 Européens, dont plusieurs centaines de Français, mais aussi des Belges. Et alors là, pourquoi ça se déclenche? C'est que Mobutu, étonnamment, il aurait pu demander l'aide des Belges. En fait, il n'a pas du tout envie, parce qu'il sait très bien que les Belges, ils seraient peut-être pas défavorables à une sécession du Katanga pour y remettre leurs pions, justement, dans les mines. Il y a beaucoup de mines de cuivre, il y a du bauxite, vous avez des diamants, vous avez plein de richesses minières, ce qui en fait, c'est un peu le Donbass, en fait. Le Katanga, c'est le Donbass du Congo, c'est la région avec le sous-sol le plus riche.
Le plus riche.
Donc, que fait Mobutu? Il appelle la France et les États-Unis. Et à partir de là, justement, ça s'enclenche avec Giscard.
Oui.
Et vous allez pouvoir nous en dire plus.
Là, les rebelles prennent... donc, on est dans la mine de Kolwezi. Donc, ils prennent tous ces... comme souvent en Afrique, ce genre de choses, c'est géré par des Européens, par des...
des Cubains et des Allemands.
Non, je parle des mines.
Ah, les
donc,
mines,
il y avait
oui,
beaucoup
pardon.
De Belges. Et de
là,
beaucoup
c'était
de...
des Belges, surtout, encore.
Oui, mais quand même beaucoup de Français, des ingénieurs, des ouvriers. Donc, il y avait beaucoup d'expatriés français qui travaillaient dans ces mines. Et donc, et là, on les arrête et on les met dans des baraquements. Et il faut dire que c'était très violent et la menace qu'ils soient tués était très, très forte. Et donc,
il y a déjà eu des victimes dans la ville parce qu'il y a du pillage.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et vous doutez bien que les rebelles katangais, c'est des hordes de pillards, ils ne sont pas disciplinés.
De criminels, c'était des hordes de criminels, exactement, c'est à la machette, vous savez comment ça fonctionne. On lâche une horde de criminels et ils tuent à la machette. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film de Belmondo, Le Professionnel,
oui,
où on voit
au
ça
début
au début
du Professionnel,
film.
Oui.
C'est des scènes, alors là c'était totalement inventé pour le scénario du film, mais la scène des razzias...
ils brûlent un village au lance-flammes
voilà,
au tout début.
Et puis ils achèvent à la machette, c'est tout à fait classique.
Oui,
et donc,
ce qui a poussé l'ambassadeur de France au Congo à presser de toutes ses forces Giscard d'intervenir,
oui.
Ce qui a fini par emporter sa condition.
Il a dit qu'on est en train de négocier, mais là, c'est très urgent, parce que le temps que les négociations aboutissent, ce sera trop tard. Et donc là, il fallait qu'il tranche, Giscard d'Estaing, et il finit par trancher. On lui propose plusieurs solutions, mais la plus rapide et la plus efficace était d'envoyer le deuxième REP de Bastia, qui sauterait en parachute sur Kolwezi pour libérer... donc c'était hyper risqué, d'autant plus que le deuxième REP n'était au courant de rien, ils n'étaient pas préparés. Alors c'est vrai que ce genre de militaires d'élite sont entraînés régulièrement...
Pour être prêts à tout.
Oui. Prêts à tout, etc. Mais disons qu'on les a informés de cette affaire la dernière minute. Donc on va faire une pause et on va rentrer dans le détail de cette affaire tout de suite après.
1 euro par auditeur, 1 euro par mois, 1 euro peut nous aider, peut nous sauver. L'été est la période la plus difficile de l'année, mais Radio Courtoisie reste fidèlement à vos côtés chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour nous sauver et préserver notre liberté d'expression qui vous est chère, ne nous abandonnez pas maintenant. Avec un seul euro, pendant l'été, donnez-nous les moyens de continuer à parler. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
On reprend donc cette émission, on parlait donc de cette affaire de Colvézi, et donc je disais qu'il fallait se décider vite, et donc Giscard d'Estaing, le président de la République de l'époque, a tranché et a donné l'ordre d'envoyer le deuxième REP se faire parachuter sur Colvézi, opération extrêmement risquée. Le colonel dont j'ai oublié le nom...
Hérulin.
Philippe Hérulin dirigeait cette opération. Évidemment, comme bon, ce sont des gens aguerris et entraînés, mais vous vous rendez compte un peu, ils se lèvent un matin, on leur dit, embarquez, débarquement mais à Colvézi par parachute.
C'est pire que ça, parce que le matériel a été en partie prêté par les États-Unis parce qu'on était au de la sous-dotation de l'armée française, et ils ont sauté à 250 mètres d'altitude avec des parachutes américains qu'ils n'avaient jamais testés auparavant. Oui. Donc ils ont pris déjà pour arriver des risques incroyables.
Mais vous rendez compte je rappelle aux auditeurs que sauter à cette hauteur, ça veut dire à peine, alors, il faut que le parachute s'ouvre immédiatement
quand vous sortez de la carlingue
parce
de l'avion.
Sinon vous vous écrasez. Parce que c'est en fait si vous ne l'ouvrez pas immédiatement, le temps qu'il s'ouvre, vous êtes déjà par terre.
Oui.
Et donc, c'est très bas.
C'est pas le record, parce que le record, vous le savez sans doute, c'est sur Dien Bien Phu. C'était à 90 mètres. Ah, les largages étaient faits à 90 mètres.
C'est impressionnant.
C'est absolument incroyable.
Et donc là, ils sautent et il y a des gens en bas qui peuvent leur tirer dessus.
Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu 3 ou 5 morts côté français, seulement, pour plus de 300 chez les rebelles katangais. Et le premier mort, en fait, est tué dès son atterrissage, et il est attrapé, en fait, il a même pas le temps de remballer son parachute, il est attrapé par des rebelles, et il est tué à la machette, lui, littéralement, il est démembré.
Et donc, en tout cas, zéro mort chez les otages, si je me souviens bien.
Oui, tout à fait, et les morts européens étaient avant.
Tous les prisonniers français et même belges sont libérés,
ouais.
Donc opération 100% réussie, très peu de soldats morts, malheureusement,
c'est le risque
au
de la
vu
guerre.
Du risque qu'ils avaient pris, c'est très peu. Et donc, opération réussie. Avec l'opération Entebbe, on peut dire que ce sont deux opérations d'exfiltration que peu de nations savent faire.
Très peu.
Et donc, il y a eu un film.
Alors, deux ans plus tard, qui s'appelle La Légion saute sur Colvézi, et qu'on doit à Raoul Coutard. Et Raoul Coutard, c'était le chef opérateur, alors à la fois de pas mal de cinéastes de la Nouvelle Vague, ça c'est moins ma tasse de thé, mais de Pierre Schoendorfer en particulier, sur la 317e section. Et c'était un chef opérateur réputé, c'est-à-dire celui qui était le directeur à la fois, on va dire, du rendu esthétique des films, de la photographie. Et il est passé à la réalisation avec des films qui ne sont pas forcément géniaux. Celui-là est quand même assez intéressant.
Oh, je trouvais réussi, moi, ce film.
Il est assez réussi parce qu'il est assez réaliste. Il est fait à chaud. Ce qu'on ne sait plus faire aujourd'hui, c'est-à-dire s'emparer en fait d'événements d'actualité et les transformer tout de suite dans la fiction. Et puis il a un casting assez intéressant, puisque vous avez Jacques Perrin qui fait l'ambassadeur de France, vous avez l'acteur italien Giuliano Gemma qui fait l'un des légionnaires,
un adjudant-chef
oui, tout à fait, et en fait ça rend très bien cette opération, et puis son côté politique aussi, et c'est bien parce que contrairement aux Américains, on n'a plus du tout cette capacité à faire vivre le mythe à partir de l'histoire. Et Dieu sait qu'on a une histoire qui, depuis les Gaulois, devrait être un réservoir inépuisable de mythes glorieux ou d'épopées ou de ce que vous voulez. On n'est plus capable, ou très peu capable, de le transformer dans la fiction. Et surtout dans la fiction peut-être la plus impactante, qui est celle du cinéma. Or, Coutard, qui a des défauts, il a essayé de le faire à chaud avec la Légion, saute sur Colvézi, mais c'est quand même pas mal.
Oui, moi j'ai trouvé le film pas mal. C'est, comme vous dites, il y a de bons acteurs. On voit bien, vous savez, les scènes de guerre, lorsqu'ils sont parachutés sur place, les otages et tout, j'ai trouvé que c'était bien fait. C'est-à-dire que les scènes de guerre sont quand même bien tournées, avec peu de moyens tout de même. On n'est pas dans le cinéma américain, bien sûr, mais c'est quand même très bien fait. Et puis, comme vous le dites, c'est des faits de guerre comme ça mérite quand même d'être montré au mieux à nos enfants. Voilà,
moi, les Américains savent très bien le faire.
Bien sûr.
Un des derniers exemples dignes d'intérêt, qui est pourtant pas d'un réalisateur fabuleux, il s'agit de Michael Bay, c'est un film qui a quelques années déjà, qui s'appelle 13 Hours, 13 heures, et qui raconte en fait l'attaque du consulat américain à Benghazi. Rappelez-vous, au moment de la révolte en Libye, donc en 2011, le consulat américain de Benghazi a été attaqué par des insurgés islamistes, et le consul a été tué. Ils ont bien évidemment envoyé des commandos pour essayer de le libérer, et les Américains sont capables d'en faire de très bons films, avec bien évidemment...
Ils ont des moyens que nous n'avons pas.
Alors, oui, mais ils ont une envie que nous n'avons pas.
Aussi, oui.
Parce, que avant d'avoir les moyens, il faut avoir l'envie.
Oui.
Et il faut avoir l'envie, quitte à faire, en effet, des entorses à l'histoire, quitte à faire de la propagande, quitte à enjoliver ce qui mérite ou ce qui ne mériterait pas de l'être, mais au moins ils le font. Et en fait, on pourrait faire 10 émissions là-dessus, mais quand vous écoutez le discours sur le 250e anniversaire de la création des États-Unis au Mont Rushmore par Trump, vous comprenez que la mentalité américaine, elle porte à ça. Et nous, on l'a plus, en fait. Et ça, c'est bien dommage. Mais il y a des exceptions, comme ce film, qu'on vous recommande. Il est tout à fait facile à trouver en DVD, en Blu-ray.
Moi, je ne peux pas parler de Colvézi et de ce film sans évoquer la chanson de Jean-Pax Meffray, mon ami Jean-Pax Meffray, que j'aime beaucoup. Sa chanson, il en a fait beaucoup des chansons, Jean-Pax Meffray, sur Cameron, sur Dien Bien Phu, chansons célèbres.
Sur l'Algérie, le paradis perdu.
Et puis il y a cette chanson qui s'appelle Colvézi, dans laquelle il chante à la gloire de ces légionnaires qui ont sauté sur Colvézi, une très belle chanson de Jean-Pax Meffray que je conseille aussi aux auditeurs de Radio Courtoisie. Achetez les DVD maintenant de Jean-Pax Meffray.
Les CD. Il doit y avoir des concerts en DVD.
Ça vaut le coup. Parce que il y a un album sur les chansons militaires que je viens de citer, dont une sur Colvézi qui est très. Où il cite d'ailleurs le colonel
Hérulin. Alors Hérulin, c'est particulier parce qu'on en parlera peut-être une autre fois. Il avait un frère qui s'appelait Dominique Hérulin, qui lui a été l'objet de la vindicte de François Mitterrand et de la cellule de l'Élysée pendant des années, parce qu'il était accusé d'en vouloir à la vie de Mitterrand. Et il a, en fait, il a dû fuir, il a été en cavale à travers le monde pendant presque 15 ans, et c'est une histoire absolument folle. C'était aussi un militaire de carrière à l'origine, qui était un petit peu plus voyou que Philippe Hérulin du 2e REP, mais assez intéressant. Il a écrit ses mémoires chez Albin Michel, je crois.
Pour conclure juste sur nos opérations, comment ne pas citer aussi une autre opération française célèbre, c'est celle de 1993, lorsque le GIGN est rentré dans cet avion qui était détourné par le GIA algérien, qui a atterri à l'aéroport de Marignane et qui a libéré tous les otages, zéro mort parmi les otages, évidemment, tous les terroristes.
C'est une opération qui a été filmée de l'extérieur, il y avait les caméras de télévision, et qui a...
Moi, je l'avais vécu en direct.
Qui a servi de modèle dans les instructions des forces antiterroristes de par le monde, tellement en fait elle était remarquable. Le premier à être entré, il y avait 3 terroristes à bord, il lui a fallu 4 balles pour les avoir. 4 balles, 3 morts. C'est quand même assez exceptionnel, sans otages blessés.
Absolument. Donc, alors on va passer. Alors je ne sais plus, il y a eu un film, il paraît, il y a eu un film.
Oui, qui s'appelle L'Assaut,
pas formidable. Donc on va pas le.
Dommage.
Dommage, oui.
Ça aurait mérité beaucoup mieux.
Voilà. Cette affaire mérite un très grand film. Un grand film. Ne serait-ce que pour rendre hommage à ces soldats du GIGN. Pierre-Henri, un petit mot.
Sur un film de 2005, mais qui fait aussi écho à l'actualité, puisqu'il s'agit de Munich de Steven Spielberg, qui est un film assez long, qui fait 2h30, et qui parle, alors bien évidemment, de la prise d'otages, des otages israéliens au JO de Munich en 1972. Tout à fait, par le groupe palestinien Septembre Noir.
Pardon, je ne peux pas, sur ce sujet, ne pas vous couper pour rappeler que le patron de Mediapart,
Edouard Plenel,
était en faveur des preneurs d'otages, faisait l'apologie des assassins,
parce que c'était une nécessité de la lutte révolutionnaire, disait-il, sous son pseudonyme trotskiste de Vincent Krasny.
Et il vient donner des leçons de morale aujourd'hui.
Ah ben évidemment.
Rappelons qu'il s'agissait de il ne s'agit pas de soldats, il s'agissait assassiné des athlètes qui venaient aux Jeux Olympiques. Ils ont tous été tués.
Ils ont tous été tués, alors, sur le tarmac de l'aéroport de Munich. Et c'est une... Alors voilà, ça c'est toute la première partie du film de Spielberg qui relate en fait surtout la riposte israélienne. Et cette riposte, on sait aujourd'hui qu'elle a été décidée par le premier ministre de l'époque qui était Golda Meir, qui était une Thatcher israélienne, j'allais dire, mais une femme de fer, ça c'est sûr et certain.
Et de gauche.
Et de gauche, qui ne reculait pas devant les moyens, voilà, quand les moyens justifiaient la fin, et l'inverse, et qui a décidé, en fait, de confier au Mossad l'élimination, c'était, je crois, l'opération Colère Divine, l'élimination de tous les responsables, de près ou de loin, parce qu'il y en a qui ont été éliminés, mais c'était un prix de gros. Voilà.
Oui, parce qu'il y avait ceux qui étaient sur place, il y avait les commanditaires.
Il y avait les commanditaires, puis il y avait ceux qui approuvaient.
Ils étaient connus pour terre.
Et puis il y avait même ceux qui n'avaient pas forcément participé, même de loin, mais qui étaient proches alors de la direction du Fatah, de l'OLP, etc., etc. En particulier le fameux Ali Hassan Salamé.
Absolument.
Qu'ils ont loupé dans un premier temps et ça a fait grand scandale parce que ils ont tué un pauvre gars qui lui ressemblait.
C'est vrai.
Un serveur marocain à Lillehammer en Norvège. Et j'ai appris d'ailleurs en me renseignant que ce serveur marocain, imaginez-vous que c'est le frère du chanteur des Gypsy Kings.
Ah bon?
Parce que vous savez que ce sont pas du tout des gitans, des tziganes d'Espagne, ce sont
pas.
Des manouches du Maroc, qui s'appellent Bouchoukri ou un truc comme ça, et le pauvre gars qui a été assassiné par erreur à Lillehammer était son frère. Alors, et en gros, pour revenir au film, Spielberg va relater en gros le travail de cette espèce de commando qui est complètement clandestin, c'est-à-dire qui ne fait même plus partie des cadres du Mossad, et qui va traquer un à un, et en particulier en France d'ailleurs, parce qu'il y aura eu plusieurs assassinats en France, donc de membres du... Alors à la fois de Septembre Noir, mais aussi des instances dirigeantes du Fatah et de l'OLP. Et il y en aura en Grèce, il y en aura à Chypre, il y en aura en Italie. Au Liban aussi. Ah bah oui, parce qu'il y a toute une opération commando qui est menée dans un quartier du port de Beyrouth, je crois.
Oui, dans le quartier des hôtels, le fameux quartier des hôtels.
Dans le quartier des hôtels,
un commando a débarqué dans des canots à 5h du matin.
Et je crois qu'il y a un, alors je ne sais plus si c'est...
De plongeur.
Ouais, et je crois que dans l'eau, il y avait Itzhak Shamir.
Non, c'est Ehud Barak.
C'était Ehud Barak, pardon.
C'est
qui
Ehud
était,
Barak,
qui était lui-même déguisé en femme.
À l'époque, il n'était pas Premier ministre, mais il était déguisé en femme. Et il se pointe dans cet hôtel et ils exécutent ce grand responsable de l'OLP.
Alors donc, ce film de Spielberg a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que bien évidemment, c'est quelqu'un qui sait mettre en scène, diriger des acteurs, et qui sait bien allouer son budget, qui était colossal quand même, pour raconter cette histoire. Et l'autre avantage, c'est justement, et ça on en parle très souvent dans notre émission, de montrer que quand on veut en fait rendre coup pour coup et se faire respecter, on peut le faire. Et là, alors bien évidemment, on peut discuter des moyens, on peut discuter de leur moralité, de leur pertinence, mais c'est un exemple historique parmi d'autres qui montre que, eh bien, la vie d'un Israélien, elle compte, et quand elle est prise par la violence, eh bien, elle est remboursée au centuple.
Oui, malheureusement, c'est un peu ce que les Israéliens ont fait. Parce que nous, quand on tue un de nos officiers à l'étranger, en Irak ou au Liban, ou quand quelqu'un commet un attentat à Paris... vous savez, ceux qui ont commis des attentats à Paris ou des assassinats, on n'a pas fait grand-chose contre leurs commanditaires ni eux-mêmes. Au mieux, on les emprisonne et puis il y en a d'autres qui vont les visiter en prison. Je fais allusion à LFI, pour demander leur libération et même on les érige en héros.
Et d'ailleurs, un an avant Munich, donc en 71, il y avait eu un attentat à l'aéroport de Lod, donc en Israël, qui avait été commis par l'armée rouge japonaise. Que ça s'appelait la Sekigun, où il y a eu plein de civils complètement innocents qui passaient par là, qui ont été abattus.
Rima Hassan érige l'auteur japonais
Le dernier membre du commando qui vient de décéder, Rima Hassan, fait un tweet d'hommage.
Oui.
Donc on est dans la continuité avec Plenel. Hein.
Ah, pareil. Ils ne changeront jamais. Vous savez, après, parfois j'envie les Israéliens d'avoir des premiers ministres et des ministres de la Défense. Parce qu'on vient de citer Ehud Barak, qui était dans cette opération déguisée en femme, et qui à l'époque était un officier de l'armée israélienne, et qui a fait
Ariel
premier
Sharon,
ministre. Ariel Sharon,
le frère de Netanyahou,
commandait la division qui s'est battue dans le Sinaï face à l'Égypte en 1973. C'est lui qui a gagné la guerre, d'ailleurs, parce qu'il n'a pas obéi aux ordres, il avait pris des initiatives qui auraient coûté très cher, et il a gagné.
Moshe Dayan a gagné 67, et Sharon a gagné 73.
Je peux faire la liste comme ça des premiers ministres, des ministres de la défense israéliens qui ont été auparavant dans l'armée, mais pas dans un bureau, au feu, en au première feu, ligne.
Tout à fait.
On a cité le frère de Netanyahou, mais Netanyahou lui-même
aussi a été dans l'actif.
Et donc, ça change quand même lorsque vous avez des dirigeants qui savent ce que c'est que le terrain. Vous voyez, nous, on a des dirigeants qui ne savent même pas ce que c'est qu'une station d'essence. Je le disais la semaine dernière, enfin, il y a quelques semaines.
Il y a quelques semaines,
voilà.
Mais c'est vrai.
Et donc, voilà. Et donc, eux, non seulement ils savent ce que c'est une station d'essence, mais ils savent ce que c'est, comme disait Roger Hollindre à l'Assemblée nationale, eux, ils ont entendu les balles siffler à côté de leurs oreilles. Et Roger Hollindre a accusé ses collègues députés de n'avoir entendu que les balles de tennis siffler. Vous vous souvenez de cette affaire?
Mais tout à fait. Et il avait bien raison.
Il avait bien raison.
Le Roger, qui nous manque tant, qui a rejoint le Père Éternel il y a 6 ans maintenant.
Il nous reste
Une minute à peine pour vous recommander.
Quelques mots sur la gastronomie.
Une fois n'est pas coutume, on va vous recommander un livre d'Hervé Gattegno, qui est journaliste d'investigation, qui a été au JDD, à Paris Match, voilà. Et il a repris de fond en comble l'affaire Markovic. Markovic, c'était le nom d'une espèce de garde du corps d'Alain Delon, qui a été retrouvé assassiné d'une balle dans la tête, jeté dans un fossé. On est en 1968. Et il se trouve que cette affaire va très rapidement impliquer par une rumeur, le président, le futur président Pompidou, mais surtout sa femme. Voilà, avec des rumeurs de parties fines, etc., etc. Et Gattegno fait un énorme travail dans les archives pour essayer de débrouiller les chevaux de cette affaire ultra compliquée, dont on n'a toujours pas le fin mot, qui est sans doute une histoire de chantage et de vengeance multiple d'ailleurs, et on n'a surtout pas le fin mot qui relie ce fait divers à la base crapuleux, à une tentative de déstabilisation de Pompidou qui a été faite par, imaginez-vous, pas forcément les habituels barbouzes de Jacques Focard et Lussac, mais par ce que l'on appelait les gaullistes de gauche, les couves de Murville, etc.,
oui,
etc.
Chaban Delmas.
Et qui considérait que, comme Pompidou avait annoncé qu'il serait candidat à la future présidentielle et qu'on ne pouvait pas se porter candidat après le général, eh bien, il fallait à tout prix le punir. Et donc voilà, ça se lit vraiment, alors j'aime pas dire comme un roman policier, mais ça se lit très bien, c'est plutôt bien écrit et bien structuré. Moi, j'ai mis 48 heures à le lire. Je vous le recommande, ça s'appelle Un cadavre sur la route de l'Elysée, en poche aux éditions J'ai lu d'Hervé Gattegno. C'est passionnant. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Merci, à la semaine prochaine.
Bonne journée.